Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous prendrez ?
Deux cafés, merci.
Bonjour à tous, bonjour Gauthier, je suis avec Gauthier aujourd'hui à notre café en lice.
Bonjour Yannick.
Ça va bien Gauthier ?
Mais ça va très bien, j'ai une bière dans la main, donc j'ai forcément bien.
Ouais, j'ai une bière aussi, on va changer, je crois qu'on va faire un truc qui va s'appeler bière au lice.
Je lui ai dit que c'était beaucoup plus porteur.
Ouais, c'est pas une mauvaise idée, à la place de café rôliste. Enfin bref. Gauthier, je suis avec toi aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton expérience d'auteur, comme tu disais, avec trois O et des accents circonflexes.
Exactement, c'est important. Hein.
C'est important. Et notamment sur Fleur de Purge.
Oui.
Et puis, comment t'en es arrivé à faire ça et comment ça s'est passé? Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça s'est passé.
En fait,
alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Parce que je sais pas si tout le monde te connaît. Tu vois, moi, je te connais.
Mais... Je suis mondialement connu, au moins dans ma famille. Quoi.
Voilà.
Moi je m'appelle Gauthier Lyon, j'ai 35 ans. En termes de trajet dans le monde du jeu de rôle, j'ai commencé par le circuit amateur comme beaucoup d'entre nous. Sur un projet qui s'appelait Lost People, qui est un jeu où on jouait des gangsters.
Lost People. Pour les gens qui sont perdus.
Exactement. Ouais.
D'accord.
À la base c'était un jeu de mots sur Lost Souls, mais c'était déjà pris.
D'accord.
Donc du coup j'ai changé, j'ai pris Lost People, etc. Basé sur une série de scénarios qu'on avait fait avec des copains qui s'inspiraient un peu des films de Tarantino, etc. On avait bien accroché, puis on a continué, j'avais commencé à écrire des trucs, etc. Ils sont maintenant sur le site de Gobzin, d'ailleurs.
D'accord.
J'ai tout remis dessus, etc.
Parce que moi, j'ai pas vu.
T'as même pas regardé. C'est sympa. Tu sais que tu es sur ce site aussi.
Mais oui, c'est
tu
vrai.
Tu es dans ce studio
quand
même.
Je suis dans ce studio aussi. Mais c'est vrai que pour le coup, je connaissais pas du tout. Et donc, ouais, donc t'as démarré.
En fait, voilà, il y a une série de nouvelles que j'ai écrites. Et les règles, l'adaptation au système basique. Moi, j'avais commencé aussi à acheter les bases de l'univers. En fait, une grande cité remplie de gens pourris. J'aime beaucoup ce genre d'univers. Non, mais c'est une thématique qu'on retrouve souvent dans les trucs que j'aime bien. Tu vois, c'est normal, quoi. Et donc voilà, j'avais beaucoup, beaucoup bossé là-dessus. Et en 2005, j'étais au Jour du Téméraire à Nancy. C'est une très grosse convention qui se tient là-bas. Et à l'époque de la sortie de Vermine, le jeu de Julien Blondel, qui est sorti au 7e cercle. Et il est sorti, je sais plus, deux ou trois jours avant mon anniversaire, je crois. Donc une copine me l'avait offert à l'époque pour mon anniversaire, elle m'avait prisé une partie. Et il y avait l'auteur qui était là, Monsieur Blondel, qui était venu taper le bout de bras, fort sympathique, etc. Et à l'époque, je lui avais dit, tiens, c'est marrant, dans ton jeu, enfin dans tous les jeux post-apo, il y a un aspect qui est complètement mis à part, c'est le sel, alors que je trouve que c'est une grosse ressource pour la conservation de la bouffe, etc. Et je lui ai dit, ça tombe bien, j'ai écrit un rapport là-dessus en école d'ingénieur. Oui, je suis un ingénieur en industrie alimentaire. En fait.
Tu es ingénieur
en industrie alimentaire.
Industrie alimentaire, voilà. Au départ, d'accord.
Spécialisé brasseur, en fait.
C'est vrai
de formation. Ouais, je déconne même pas. C'est pour ça que je dis que bière rôliste.
Mais oui, carrément, on aurait dû faire exprès pour toi, c'est une hors série.
Et donc, voilà, j'avais écrit un rapport sur le sel. Donc, justement, je lui ai proposé de lui envoyer. Et dans la foulée, quelques mois après, j'ai reçu un mail me disant « Tiens, je cherche du monde pour participer à l'évolution de la gamme, est-ce que ça te dirait pas ?» Et puis ça tombe bien, j'y ai participé, j'ai fait un scénario dans la deuxième extension, je crois, de mémoire, « Parasite et symbiote ». Donc c'était un gros scénario, qui s'appelle « Un rêve au goût amer ». Et donc ça, c'était ma première expérience dans le monde professionnel du jeu de rôle. Bon, c'était un peu brouillon, un peu fouillis, etc. J'ai toujours une certaine tendresse pour ce truc.
Mais c'est
moi qui l'ai fait, donc c'est forcément génial.
Ouais.
C'est obligé.
Ah ça, je veux bien le croire. Mais donc ça veut dire que
ta première expérience, c'était un scénario
de Vermine dans le deuxième supplément.
Voilà, tout à fait.
Donc ça s'est bien passé. Comment t'as fait en fait? T'as juste discuté, en fait, t'as juste envoyé un mail à.
J'ai discuté avec Julien, c'est lui qui m'a recontacté derrière parce qu'il cherchait des gens pour
D'accord, non, mais c'est plutôt pas mal,
Et voilà, ça s'est vraiment fait comme ça, de fil en aiguille. Donc voilà, après pour la suite, j'ai rempilé pour le supplément d'après qui était Rumeur 2037.
D'accord.
Où j'ai fait des petites choses sur. C'était un supplément un peu auberge espagnole, donc chacun avait 2-3 sections. Moi, je me suis occupé des parias, un truc sur le Graouli qui est le dragon de Ness. Sur un dragon.
D'accord.
Je poste à peau, moi, tu vois, j'arrive, je mets un dragon.
Ouais, bon, la base.
Il n'y a pas de surnaturel, non, c'est pas grave.
T'inquiète.
Un dragon. Voilà, tout va bien. Voilà, et puis je suis 2-3 autres trucs. C'était vraiment une auberge espagnole. Et puis là, après, le jeu s'est arrêté.
J'ai une question bête, t'as été payé pour ça?
Oui, oui, tout à fait. Ouais.
D'accord, t'as été payé en droit d'auteur ou en direct?
Non, en forfait là.
En forfait, ok.
C'était, en forfait,
c'était des textes, c'est de la pige.
Exemplaire,
en fait.
Et de mémoire, un exemplaire d'auteur. Ouais.
Mais c'était de la pige.
C'est ça, ouais, okay. Tout à fait. Et ensuite, donc, s'en est suivi un gros. Enfin, au niveau professionnel, après, je me suis un peu raté. Ah non, je dis des bêtises, j'ai fait le bestiaire de avant. Une partie, pardon, du bestiaire d'aventure dans le monde intérieur, à Emmy. Bah, je sortais de l'expérience Vermine, donc j'étais à fond, arachnide, insectes, ouais, etc. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai fait toute cette partie-là dans le truc en bossant avec Pierre Omago, qui est quelqu'un de très bien, très sympathique.
Bon, il y a souvent des gens très sympathiques.
C'est vraiment bien. Enfin, alors c'est marrant, tu vois, c'est encore un truc qui est, je pense, particulier au monde d'Internet. C'est, le gars, je l'ai jamais rencontré, mais sur le net, on s'entend super bien. Je trouve super sympa.
Bah, c'est marrant parce que j'ai un peu la même expérience avec les gens pour qui je bosse là sur Etsy. Ouais. Mathieu Destef et Laurent Devernay. Laurent Devernay, je l'ai jamais vu.
Bob Darko, il est super sympa.
Non, mais je sais qu'il est sympa, mais je ne l'ai jamais vu. Mathieu, je l'ai vu deux fois en tout. Et il est très sympa aussi, mais je voulais jouer.
Ah, Mathieu, je n'ai jamais rencontré. Pareil, c'était juste sur Internet.
Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens.
Je crois,
oui, bah, il est toujours au Japon, non? Mais tu vois, ça, on a quand même tendance à beaucoup travailler, entre guillemets, ou même à s'entendre ou à créer des amitiés sur Internet. Et comme c'est un petit milieu, on se prête les uns les autres,
ouais,
tu vois, on
ça,
s'appelle
ouais.
les uns les autres.
Bah là, il n'y a pas très longtemps, vu que je viens d'arriver sur Paris, j'avais rencontré Mathias Haddad.
Et ouais,
le soir où je l'ai rencontré, j'étais avec une copine.
Ouais.
Et je lui ai dit, bah, je vais rencontrer quelqu'un, ça fait 10 ans que je le connais, mais je ne l'ai jamais vu.
Ouais.
Elle a rigolé, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça. Si. Alors, et en vrai, il est pareil que ce à quoi je m'attendais. Tu vois,
ouais. C'est bon, c'est pas la même chose pour tout le monde, on dévient un peu.
Ouais.
Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout pareilles.
Voilà, on va recentrer pour les auditeurs, tu vois. On parlait de quoi déjà?
On parlait de toi.
On parlait de moi, merde.
Donc, ouais, alors on a dit que tu avais fait Vermine, donc tu avais fait deux, trois trucs pour Vermine.
Ah oui, après Aventure dans le monde intérieur.
Après Aventure dans le monde intérieur.
Et on en était là. Donc, ça, c'était en 2005 de mémoire. Là, donc après, je me suis mis à. J'avais un boulot qui était très très prenant, donc là, j'avais plus trop le temps d'écrire, bon, sauf mes trucs en amateur où il n'y avait pas de deadline, etc. C'est de là que j'ai fait les playtests du DK et que je me suis mis à écrire les guides du Soudard.
T'as fait les playtests du DK? Du DK?
Du DK, ouais. Ah,
d'accord. Ouais, ouais. Moi j'ai fait les playtests du DK, mais on les a pas fait ensemble pour le coup.
Non. On ne se connaissait pas encore,
non.
Tu sais.
Non, c'est vrai.
Donc voilà. De là, ouais, j'avais commencé les guides du Soudard de Nercos, hein, qui est un mini univers de DLG disponible gratuitement sur Gobzink. Allez-y, c'est très très bien.
Ouais.
Que ça m'a occupé pendant quand même presque 7 ans.
Ah ouais?
Ouais. J'en ai écrit 3 numéros, donc c'était pas mal de techniques, plus le dernier où il y a un peu de background qui élargit un peu l'univers. Et ensuite, donc voilà, jusqu'en 2012. Et là, récemment, donc une de mes dernières claques holistiques, ça a été Vasbourg.
T'as commencé par lire le livre ou par jouer au jeu?
Par lire le livre. Mais en fait, Cédric Ferrand, on se connaissait un peu de l'époque de Vermine, parce qu'il travaillait sur Vermine.
Cédric Ferrand, l'auteur de Vasbourg.
L'auteur de Vasbourg, exactement. Donc il bossait sur Vermine, et puis après on avait pas mal discuté en 2005 toujours, quand il avait traduit Boule de Neige, qui est un petit jeu de rôle amateur que j'ai trouvé génial à l'époque.
C'est lui qui l'a traduit.
Génial d'ailleurs. Ouais.
Ah, d'accord.
C'est lui qui l'a traduit, et il avait lancé un concours d'accroche sur Clésus. Et en fait, je sais pas si tu connais un peu le principe de Boule de Neige ou pas?
Ouais, je m'en souviens.
Donc j'explique peut-être pour
les
gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas. En fait, c'est un truc où tu démarres du début de la scène finale du film, et à chaque fois tu remontes une scène, un peu à la Memento, le film
à
Guy Pearce. Du coup, il avait fait un concours, tout le monde avait trouvé ça très très sympa, moi j'en avais pondu je sais plus combien, j'avais vraiment beaucoup aimé, j'ai même fait un supplément d'ailleurs pour Boule de Neige, qui s'appelle Boule de Givre,
J'en souviens.
Qui est disponible sur le site de Cédric Ferrand et Philippe Fesneau. Et voilà. Donc du coup on se connaissait déjà.
Ouais.
Il m'avait fait relire le système de jeu.
Avant que le jeu
de Vesbo.
Ouais. D'accord.
J'avais trouvé ça vraiment excellent.
Ouais, après, moi j'ai pas le même sentiment, mais.
Après, les goûts, les couleurs.
Ouais. Ça, non,
mais avoir mauvais goût, hein, je t'en veux pas.
Non, mais.
C'était sympa à part ça.
Non mais clairement ça tourne bien, mais c'est vrai que c'était pas ce à quoi je pensais au départ, mais au final, après avoir fait une partie.
Ce que j'avais tout le monde t'a testé.
Ouais, j'ai testé avec Michael Pratorio,
ouais.
Et qui est un très bon maître de jeu aussi, mais tous les gens de qui on parle sont très sympas. mais pour le coup, franchement, je me suis vraiment...
Il dit ça, alors je tiens à préciser qu'il dit ça en me faisant un grand sourire, genre non, je suis pas sérieux, personne
ne
croit.
C'est faux, c'est faux. Et il est. Mais pour le coup, c'était vraiment une excellente partie. Et le système de jeu a très très bien tourné. Mais il a vraiment bien tourné.
Parce que j'aime beaucoup, donc, en fait, c'est qu'il est extrêmement simple. Il est... Enfin, je trouve que c'est élégant, en fait.
C'est élégant, super, ça marche.
L'explication des règles, moi, quand à chaque fois que j'ai fait jouer, ça s'est fait, hein, sans te mentir, je pense, moins d'une minute.
Ouais, ouais.
C'est vraiment super rapide, très simple.
Tout à fait.
Et en plus, même des gens qui n'ont jamais joué se prêtent au jeu très rapidement. Se prennent au jeu, quand même.
Ouais. Donc, toi, tu as relu le système, tu l'as trouvé bien.
Voilà.
Ok.
Et un peu plus tard, attends, comment est-ce que ça s'est fait déjà? Je sais plus. Je crois que c'était après la première extension. Comment dire? Moi j'ai beaucoup de marottes, en fait, dans le jeu de rôle. Et on a deux principales, c'est le tatouage et la prison.
Ce qui tombe
carrément bien à Wasbourg, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que quand j'avais lu le roman, bon, déjà le système des tatouages judiciaires qui est vraiment
institutionnalisé.
Merci. Voilà, donc qui est ça dans le monde. Bon, déjà, ça m'avait beaucoup plu, et c'est vrai que le monde de la purge, enfin la purge telle qu'elle est décrite dans le roman, ça m'avait vraiment, vraiment intéressé, quoi. Et donc, du coup, au départ, j'avais proposé à Cédric Ferrand directement par message sur le forum Casus de faire une aide de jeu. Au départ, moi, je pensais quelque chose de gratos, ça balançait sur le net, hein, tout simplement. Puis il m'a dit, mais tu vas te retenir une extension. Bah ouais, ok.
Non, ah bah ça faut pas dire ça à un auteur, hein. Attends, tu veux que j'en fasse plus?
Bah tiens, même.
Ouais.
D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'à la base, je crois que j'ai un peu explosé le signage. Je crois que normalement c'était 60 000 signes. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on discutait avec.
60 000 signes?
Ouais,
pour supplément?
Ouais, c'est des suppléments assez petits, hein. Je sais pas si t'as vu le premier. Je sais plus si c'est 60 000 ou 90 000.
Mais c'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup, mais c'est des petits livres.
Ouais,
parce qu'en fait, c'était ça à la base, l'idée de la gamme.
Ouais, c'est de faire des petits livres.
Enfin, moi, je dis ça, je ne suis pas l'éditeur, hein, mais c'est ce que j'avais compris en tout cas en tant que simple consommateur. En fait, le principe, c'était de faire des petits livres de 32 pages, format A5, etc. Et qui sortaient très régulièrement.
Ah,
et donc, du coup, avec des auteurs qui changeaient, etc.
Ouais, mais
ça permettait justement d'avoir un peu à la Trinité, tu vois, qui a une autre gamme des 12 singes, qui est l'éditeur de Vasbou.
Isler, il en parlait justement lors du dernier Radio Rolliste en disant que lui, maintenant, son truc, c'était de faire des trucs très petits et très souvent.
Mais c'est quelque chose qui est
beaucoup plus
intéressant, parce que du côté entre guillemets consommateur, alors c'est pas un mot que je juge sale, moi, donc
non,
mais c'est pour les auditeurs et tout, qui se braquent en disant oulala, c'est de l'art, etc.
Les pédants,
ouais, ils se la pètent aux auteurs, tu vois. Mais non, plus sérieusement, ouais, quand t'es du côté lecteur, on va dire, enfin consommateur de jeux de rôle, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir une gamme où t'as plein de petits trucs qui sortent très souvent. Comparé à un truc où tu vas attendre pendant longtemps d'avoir un truc énorme qui va sortir, mais qui sort une fois tous les deux ans.
Oui, c'est intéressant parce que tu peux faire une gamme avec des plus petits suppléments, moins cher en général. Bon, au final, ça peut te revenir plus cher, mais moins cher sur l'instant.
C'est ça.
Et t'achètes juste la zone, le truc que tu veux développer, quoi.
Bah, par exemple, la toute première extension de Vasbourg, elle est à 10€. 10€, c'est plus d'une place de ciné aujourd'hui.
Ouais, tout à fait.
Bientôt du paquet de clopes également. C'est ça pour le film. Hein.
Ouais, c'est clair. Ok, donc tu contactes, pour revenir à notre histoire, tu contactes directement Cédric Ferrand, que tu connaissais déjà.
Voilà.
Tu lui dis, j'ai ça, j'ai une idée de jeu, il te dit, fais-moi un supplément avec ça. 60 000 signes, 90 000 signes, c'est pas.
En fait, la base, c'était 60 000, en discutant en fait avec Sébastien Cédrin, donc, qui est chez Douze Singes. Pendant l'espèce de va-et-vient, tu sais, au moment où t'écris, t'envoies une première version, tu reçois le truc. Je lui ai dit, ouais, le signage là en 60 000 signes, il va vraiment falloir que je taille dans le gras. Mais
on s'en fout.
T'embête pas, écoute, on verra à la fin. Ouais. Et puis on verra à ce moment-là. Et au final, il a tout gardé.
Bah, je dis ça parce que, entre nous, les auditeurs s'en foutent probablement, mais 90 000 signes, c'était la première version de mon scénario qui sort chez Blue Dust, le deuxième supplément de Blue Dust. Et alors qu'en vrai, il fallait que je fasse 45 000.
Ouais, t'as un peu explosé. tu t'es un peu étendu quand même.
Je me suis un peu lâché.
T'as fait du Balzac.
Non, parce que après, j'ai enlevé plein de trucs, donc je l'ai un peu, tu vois.
Ah, parce que c'est 90 000 signes, c'est déjà en ayant enlevé des trucs.
Alors, attends, 90 000, c'était en me calmant, en me disant, tiens, je vais peut-être compter les signes. Ensuite, je vérifie en me disant, ok, bon, l'objectif c'est 65 000.
Non, mais tu te rends compte que t'es le cauchemar d'un éditeur.
Ah, c'est horrible. Attends, donc j'enlève jusqu'à ce que j'arrive à 64 000. J'étais super content, j'avais enlevé plein de trucs. J'étais super fier de moi.
Et là, tu l'as fait relire, on t'a dit, on comprend rien.
Non, je l'ai filé à François, et François il me dit, mais c'était 45 000, je crois, pour les scénarios longs. Moi, je dis, ah bon. Donc, non, effectivement, ça vient très très vite. Donc, ça veut dire que Ça veut dire que le scénario, enfin le, ce que tu as écrit, c'est, ça reste utilisable, on va dire, et on n'est pas dans le cadre d'un supplément énorme, et donc il n'est pas très cher en échange. Quoi.
Ouais, c'est ça. Bon, alors après, je sais que, par exemple, sur Casus, qui est quand même un repère de ralliste, comme on dit...
Ouais, tout à fait.
Ce sera toujours trop cher, etc. Non, pas trop, pas tant que ça, en fait. Bah, pour l'instant, les retours sont plutôt très, très, très bons. Et bon, ça fait plaisir, hein, bien sûr. Et bah, notamment, il y a... comment il s'appelle son pseudo, c'est Solaris, je crois, sur Casus. Qui disait que 16 euros par rapport à l'objet, ça pouvait sembler...
Ah, c'est 16 euros, celui-là ?
Voilà, c'est 16 euros, ouais, parce qu'il est plus...
Il est plus épais.
Plus épais, dos carré, etc. Bref. Et il disait, voilà, ça peut paraître un peu cher par rapport à l'objet, ce qu'on a l'habitude de payer quand on est release. Mais en fait, vu le contenu, il s'est pas senti volé. Donc, personnellement, je trouve ça
bon,
plutôt
quoi.
Sympa. Quoi.
Ouais, ouais. Tu es le seul auteur dessus
Sur celui-là, ouais.
Ok.
Bon, ça a été relu par Côme Martin, Cédric Ferrand, Michael Croatoriou, voilà, la team
la banque,
actuelle de Vasbourg. Quoi, ouais. Mais bah, pour en revenir en fait au contenu, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'un scénario en fait, il y a un gros scénario. Mais il y a aussi deux aides de jeu, il y en a une sur le tatouage, hein. je t'en parlais, moi c'est une de mes grosses marottes. Et donc là j'ai pu utiliser un peu tous les bouquins que j'avais
sur, tu t'es lâché, là.
Sur le sujet, bah, j'étais super content. Quoi. Ouais. J'ai le bouquin sur le tatouage dans l'univers des bas-fonds, du crime, ouais. etc. Tout ce qui est des tatouages de bagne,
ouais.
ce genre de choses. Plus ces tatouages japonais qui étaient vraiment des tatouages judiciaires à l'époque,
ouais,
aussi. Hein.
Ouais.
Ça remonte aux Bakuto. En fait, encore avant les Yakuza, les Bakuto et les Tekiya, c'était ceux qui s'occupaient des salles de jeu, les Bakuto, de mémoire, j'ai peut-être des bêtises.
Ouais.
Et les Tekiya, c'était des colporteurs, en fait. Et donc, ces deux communautés, entre guillemets, on finit par donner les Yakuza. Quoi.
D'accord.
Et donc, ça a donné aussi le tatouage ritualisé, institutionnalisé, etc., qui faisait partie du truc. Et donc ça, c'est la première aide de jeu qui est là-dessus. Mais en fait, j'ai un peu élargi, justement, en parlant de toutes les populations qui se font tatouer dans le monde de Vasbourg. Donc ça peut être des soldats, des marins, etc., pour justement un peu élargir le truc et donner vraiment... Ça, c'est un truc que j'ai essayé de faire, alors j'espère que c'est bien passé, c'est donner vraiment des trucs intéressants pour les MJ, pour les meneurs, pour créer du jeu, en fait. Que ce soit pas juste, voilà, c'est bien beau dans l'univers, etc., mais limite, ça fait un peu branlette de MJ qui s'amuse avec ces trucs, et puis ça sert à rien en jeu. Quoi.
On a souvent ça.
Ben voilà, ben souvent... c'est aussi le ressenti que j'avais parfois en lisant
souvent...
certaines extensions.
Ouais.
Bon, par exemple, un certain éditeur, tu vois, un loup qui serait blanc.
Ouais, un loup, c'est vrai.
Tu vois de quoi j'en ai parlé. Voilà.
On a souvent tendance à penser que les éditeurs tirent à la ligne et mettent beaucoup de texte et finalement peu d'opportunités de jeu.
Ben justement, moi, c'était un truc que je voulais. C'était vraiment créer du jeu avec ça, en fait, que ce soit intéressant pour tout le monde. C'est-à-dire que même quelqu'un que le tatouage n'intéresse absolument pas dans la vie de tous les jours, et qui en a, strictement rien à fiche, mais qui disent, ah ouais, mais par contre, je vois comment mes personnages vont... qu'est-ce qui va pouvoir les intéresser, tu vois, ils vont aller voir un gars de la purge pour qu'il leur décrypte les tatouages d'un détenu qu'ils ont, etc.
Non, mais c'est intéressant, ouais.
Voilà, donc ça, c'était la première partie. Donc ça, c'était la celle que j'avais proposée à Cédric, en fait, à la base. Et la deuxième, c'est là où je parle de la purge. Et la purge, bah, mine de rien, parce que ce que tu vois souvent dans les séries, en fait, c'est des prisons pour hommes. Il n'y a que ça. Et en fait, bah, moi, j'ai un peu élargi en parlant des prisons. Il y a toute une aile de la purge qui est consacrée aux femmes, et il y a aussi une aile qui est la maison de correction pour les gamins. Et ça, c'est un truc que, à mon sens, dans ma petite culture rôliste, en tout cas...
Ouais, qu'on n'avait pas vu...
Bah, j'avais jamais vu, je me disais, bah, c'est dommage, ça manque, quoi.
Ouais,
même quand tu fais jouer des personnages gamins, qui peut se faire en plus dans Vasbourg, c'est vraiment dedans, c'est ce qu'on appelle les blanchons, voilà, c'est un peu les indiques des... les indiques et puis les hommes à tout faire des gardes,
babouches,
en fait,
ouais.
quoi, donc ils sont les joueurs les personnages joueurs de Vasbourg. Du coup, il y en a certainement plein qui sont passés par la maison de correction, et tu vois, ça permet encore de rajouter une petite couche de trucs intéressants à mettre en jeu, quoi.
D'accord.
Et ensuite, il y a eu un gros scénario. Alors ça, bon, je ne sais pas si tu peux le sentir quand je te parlais du scénario de Vermine, mais c'est un truc où je suis pas très à l'aise, moi, avec les scénarios. Je trouve que c'est un exercice vraiment difficile, en plus d'être ingrat, quoi. C'est le truc, de toute façon, tu sais que les meneurs qui vont le lire vont pas l'utiliser tel quel.
En fait, je pense
qu'il y a très peu de chance.
On va faire un café rôliste spécialement sur l'écriture de scénario,
ouais.
parce que c'est très particulier, et je pense que tout le monde se trompe. je pense que tous les auteurs se trompent dans ce que dans ce qu'attendent les MJ. Alors, et c'est con ce qu'on a MJ
en même temps. Pour rebondir là-dessus, en fait, je pense surtout qu'il y a pas, enfin, il y a 57 manières d'écrire un scénario, et chacun a son petit truc favori. Moi, je sais que ceux qui étaient écrits par Cédric Ferrand et Philippe Fesneau, bon, je suis désolé, ça fait un peu fanboy de dire ça, mais j'adorais vraiment la structure qu'ils avaient. C'était un synopsis, ce qui se passe si les personnages joueurs ne font rien, et en même temps, à côté, ils rajoutaient, ben voilà, pour impliquer vos joueurs, vous pouvez faire ça, plus des idées d'événements à rajouter en plus. Ça faisait un peu sandbox, comme on dit aujourd'hui, bac à sable. Et j'aimais bien le côté vraiment boîte à outils, c'est tiens, regarde, voilà ce qui va se passer. Et voilà ce que tu peux en faire.
Ouais, enfin c'est quand même pas évident, et à mon avis ça va être l'objet d'un ou deux podcasts spécifiques, parce que c'est vraiment très large, et sincèrement je pense qu'on se plante tous en fait. Donc bref.
Donc pour revenir à Fleur de Purge.
Ouais. Alors, vas-y, ouais.
Un aspect que j'aimerais bien aborder surtout, c'est le rapport avec l'éditeur.
Vas-y, je sais.
Parce que, bon, il y a un certain podcast un peu connu et polémique, entre guillemets, que je ne citerai pas. Qui a parlé du rôle de l'éditeur il n'y a pas très très longtemps.
Moi, la télé, non ?
C'était pas vraiment. C'était bizarre. Hein,
ouais.
Justement, en fait, il y avait Sébastien Savin des Doux Singes qui était. Maintenant, tout le monde sait de quoi je parle. Quoi.
Ouais.
Et j'avais un peu l'impression qu'il l'avait invité un peu pour le défoncer, pour le bâcher. Et en fait, ils sont des.
Il s'est bien défendu.
Il a bien présenté en fait, ce qu'est le rôle d'un éditeur. Pour moi, c'est vraiment le chef de projet.
Ouais.
Moi j'ai été chef de projet en industrie, hein, donc c'est, bon, ça se retrouve
c'est
un
similaire,
peu.
Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, moi qui le fais en informatique pour le coup. Ouais.
Pour moi c'est vraiment
le
chef d'orchestre.
Ouais.
C'est celui qui organise tout, voilà, qui va dire tiens, là je peux appeler le scénariste, là je vais parler au gars qui va faire les aides de jeu, là machin, on en est à ce stade de la production, il faut que je mette en branle les illustrations, etc. Enfin, il était vraiment très très clair. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très 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 agréable du point de vue de l'auteur. C'était, auteur.
Ouais.
C'était vraiment super confortable. Et en même temps, la relation qu'on a eue, ça a vraiment poussé la qualité du texte vers le haut. C'est-à-dire que entre le texte que j'ai rendu au début, bon, qui était voilà, brouillon par endroit, pas forcément clair, etc., et le texte à la fin, moi j'étais vraiment.
T'as vu un véritable amélioration.
En termes de clarté, en termes de jouabilité, d'intérêt pour tout le monde, c'était vraiment, vraiment super intéressant.
D'accord, donc l'apport de l'éditeur, toi, te paraît extrêmement important. Tu vois,
exactement.
C'est marrant parce que là, je fais la comparaison avec ce que nous disait Isler la dernière fois, au même endroit, et de son expérience vis-à-vis de l'auto-édition notamment, tu vois. Et moi, j'aime bien les deux. L'auto-édition me fait rêver me fait rêver parce que tu enlèves des intermédiaires.
Moi, pas du tout.
Ouais, non, mais me fait rêver dans le sens où tu enlèves des intermédiaires, t'es plus. Le truc qui touchait Isler et moi aussi un petit peu, c'est le côté t'es ton propre patron, tu fais tes propres choix, t'as pas de compromis à faire. Et d'un autre côté, avoir l'aide d'un éditeur, et j'en parlais encore récemment, le côté éditeur, tu sais, ça se divise en deux métiers, éditeur et publisher. Et le côté éditeur, c'est-à-dire le mec qui va te filer des conseils, qui va te dire. Ce qui va se vendre ou ce qui va pas se vendre, parce qu'on veut, on aimerait quand même que ce soit un petit peu diffusé, donc que ça se vende. Les conseils d'écriture, parce que les mecs ils ont l'habitude, même s'ils sont souvent auteurs eux-mêmes, et en plus de ça ils ont l'habitude de voir plein d'auteurs. Et donc,
alors, je me permets de rebondir là-dessus, tu vois.
Enfin, moi je trouve ça
exemple,
vraiment
y a plein de,
c'est intéressant.
Ouais. Ouais, moi il y a plein de tics de langage que j'ai vraiment. Bon, je le savais déjà parce que j'ai écrit des trucs, mais. Quand quelqu'un te relit et te pointe vraiment du doigt toutes les expressions que toi tu utilises, tu sais ce que tu veux dire, tu vois, quand tu l'utilises. Mais en fait, à la lecture, les gens, ils ont pas le.
Ah, mais tu sais,
ils ont pas.
C'est marrant,
rien que la manière dont tu bouges, tu vois.
Moi, quand je fais des relectures de gens, je vois des erreurs que moi je fais après ou avant. Et donc, c'est toujours très bien de se faire relire tout le temps. Enfin, ça, je veux dire, c'est la base. Ok, ouais.
Non, tout à fait.
Donc, tu t'es fait relire, ouais.
Et donc, voilà, ouais. Puis, c'est vrai que moi, c'est une grosse plus-value que j'ai vue, la relecture avec vraiment le regard de l'éditeur. Quoi.
D'accord, donc ça c'est vraiment quelque chose de très appréciable, quoi.
Ouais, ouais, carrément. Bah, par exemple, il y a toute une partie sur. Le sabir de la purge. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont les détenus parlent entre eux. Sébastien Salin, il a fait un truc que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Donc, il en a fait carrément une espèce de petit.
Un lexique.
Un petit lexique, voilà. Qui est fourni gratos sur le site des Doux Singes. Et ça, mine de rien, c'est un truc, c'est super sympa. Tu vois, tu files ça à des joueurs. Hop, tu peux même faire une partie à thème où ils jouent des détenus, etc.
Ouais,
enfin,
c'est.
Enfin voilà, tu vois, c'est le genre de petite tête de jeu sympa à imprimer. Et enfin, moi ça ne me serait pas venu à l'esprit, tu vois, si ça venait plus qu'un.
Pour
être tout à fait honnête, je me suis même pas posé la question. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme, comme relation.
Il nous reste à peu près 5 minutes.
Ouais, tu veux parler de quoi ?
Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ton ressenti, de ton travail ? Là, tu nous as expliqué un petit peu comment ça s'était passé. Est-ce que tu peux nous faire un ressenti vraiment ? Est-ce que tu as aimé ce que tu as moins aimé éventuellement ? Même si tu n'as pas trop envie d'en parler. Voilà, comment tu as ressenti
En fait, le truc que j'ai bien aimé surtout, c'était... au démarrage, j'avais commencé à écrire le truc comme un peu un inventaire à la Prévert, tu vois, enfin... la description un peu méthodique habituelle des aides de jeu qui parlent de l'univers, tu vois, en disant voilà, au premier niveau de la purge, il y a ça, etc. En fait, je me suis aperçu que ça fonctionnait pas très bien et que c'était vite chiant, en fait, pour être tout à fait honnête. Et là, je me suis mis à le faire, à faire une version un peu romancée, un peu avec le ton du roman. Alors, bon, je sais pas si ça passe aussi bien que le roman, hein, bien sûr, mais. Mais j'ai trouvé ça sympa, et puis en plus ça rend les choses vraiment plus vivantes, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment apprécié. Comme je te disais, les rapports avec l'éditeur, ça c'est toujours... ça a vraiment été... ça a vraiment tiré la qualité vers le haut, quoi. Ça c'est un truc, je veux dire, entre ce que j'ai rendu au départ, et puis bon, étant en auteur amateur depuis pas mal d'années, bon... Oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'en plus, là, en ce moment, j'ai plus trop le temps d'écrire, donc je me consacre un peu à Vesbourg, et puis le reste, on verra plus tard. Mais ouais, non, du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment, vraiment plu, quoi. Et puis bon, le fait de discuter avec Com Martin aussi, qui est quelqu'un de très sympa, et qui va faire, qui signe des prochaines extensions, qui va être très, très bien, d'ailleurs. Voilà, et puis Cédric Ferrand, que j'aime toujours autant. Quoi.
Est-ce qu'il y a des moments que tu regrettes, ou des parties que tu as mal faites, ou que tu as l'impression, je sais pas, que tu as passé trop de temps sur un truc ou...
Alors il y a un truc, je m'en suis pas aperçu jusqu'au jour où c'est sorti, là je me suis fait. Et après tu sais, c'est comme d'habitude, toi tu le vois jamais, puis à partir du moment où tu vois que ça.
Ouais, je comprends.
C'est un truc très bête, c'est la quatrième de couverture, la première phrase.
Ouais.
La première phrase.
C'est quoi ?
C'est une bête malade qui suinte la maladie. Et ça, pendant les
relectures. Je me souviens d'avoir vu ça.
Voilà, et pendant la relecture, ça avait été soulevé. Et je sais pas, ça a dû passer à l'as.
Mais c'est drôle.
Et du coup, après, c'est le seul truc que tu vois, quoi. Tu fais, j'espère que personne va le voir.
C'est con, mais c'est drôle.
Et forcément, il y en a un qui me l'a sorti sur Facebook, tu vois.
Ouais, mais j'aime bien, moi je trouve ça génial.
Et puis bon, après, c'est un peu facepalm, tu vois, t'es là, oh là là, c'est pas vrai.
Laissez-moi tranquille.
Laissez-moi tranquille, j'ai rien fait, c'est pas moi. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça, je regrette un peu, mais en même temps, tu vois, ça fait le truc un peu drôle.
Ouais, voilà, c'est... Non, mais là, c'est une anecdote, mais est-ce que t'as d'autres trucs, je sais pas, moi, une méthode de travail ou un truc de.
Non, moi, je te dis, dans l'ensemble.
Ça a mis longtemps, par exemple, ça a mis longtemps entre le.
Ouais, par contre, c'est vrai que j'ai rendu mes textes, je sais plus si c'était en décembre ou en janvier, et c'est paru beaucoup, beaucoup plus tard, mais je sais plus exactement d'où ça vient. Il y avait une explication, je sais plus pourquoi. Mais du coup, voilà, tu vois, quand t'es auteur, tu rends tes textes, que tout est prêt, etc. C'est vrai que t'es un peu fébrile, tu vois.
Ouais, t'es fébrile, c'est vrai que ça sort.
Quand, etc. Et c'est vrai que du coup, après, moi, j'étais mince, ça arrive pas.
Et même avant que tu rendes tes textes, entre l'idée, si tu veux, de faire le supplément et les textes rendus, c'est passé longtemps ?
Je sais plus.
Je crois que les gens se rendent pas bien compte. Moi, il se passe plusieurs années, souvent.
Non, là, ça se comptait en quelques mois, quoi, je dirais, je sais pas. 4 à 6 mois, je crois, pour tout rédiger, etc.
De 4 à 6 mois pour rédiger.
Je te dis ça, honnêtement, je me souviens plus. Je vérifierai.
Non, mais ça veut dire, on va dire 4 à 6 mois, très grossièrement, pour écrire les textes à partir de l'idée initiale. Autant de temps pour être publié après.
Sachant qu'en fait, c'est un supplément, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup documenté.
Ouais.
Il y a énormément de fond derrière. Hein. Bon, je pourrais donner quelques noms. Il me semble que tu donnes des liens, toi, sur
Je mettrai les liens.
Site, voilà. Bon, il y a notamment La Marque de Caïn, qui est un documentaire sur les prisons russes. Il y a un autre livre, pareil, sur les tatouages de bagne et de criminels, etc., en France. Enfin, voilà. Et il y a vraiment beaucoup de fonds. Et pourquoi je racontais ça déjà ?
Non, mais pour dire que c'était bien.
Voilà, oui. Non, mais c'est la meilleure extension du monde. Il faut l'acheter à 16€, non, c'est pas cher. Voilà, quoi.
D'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Il nous reste 20 secondes.
Bah non.
Non, et voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Gauthier.
Bonne soirée, Annick.
Et puis,
on va aller recommander une bière.
On va aller recommander une bière. Merci à tous et au revoir. À bientôt.